Oui, bonsoir.
Oui, Monsieur Fournet?
Oui, je vous écoute. Hein.
Oui, merci déjà de répondre. Donc j'ai un peu regardé votre site. Alors je vous cache pas qu'il y a énormément de choses à voir, à traiter, car c'est très dense. Il y a beaucoup d'informations.
Je sais. Bon, essayez de parler plus fort, je vous entends pas très bien avec la rocade.
D'accord, je vais essayer de parler plus fort alors.
Oui.
J'ai également regardé auprès de Grenoble, Privas, les procédures que vous aviez encore en cours. Alors, vous avez notamment ce dont vous m'aviez parlé, l'instruction auprès de M. Schmitt,
oui,
qui est la plainte pour escroquerie contre deux avocats.
C'est ça.
Voilà. Alors, oui. Là-dessus, oui.
Mais bon, comme je dis, je vais pas m'arrêter là. Parce que comme je vous
non,
dis, voilà.
Ça
c'est moi de toute façon, tant que ça bougera pas, je peux poursuivre. Parce que la loi, ce qu'ils ont fait, c'est imprescriptible. Voilà.
Oui, vous avez raison. Et vous avez bien compris que vous n'allez pas vous arrêter là. Par contre, ça ne va pas se régler en une après-midi ou en une journée sur le toit d'une cheminée.
Non, mais il peut y avoir des avancées, on va dire, décisives qui montrent une bonne volonté. Par exemple, quand un juge d'instruction décide de ne pas auditionner les notaires et me dit vous poserez les questions vous-même, voilà, alors que c'est qu'une demande d'acte et que normalement il devrait s'exécuter avec toutes les preuves qu'il a entre les mains. Voilà, on est dans un système où on va dire qu'on touche pas aux copains, quoi. Les copains, ils ont le droit à toutes les opérations mafieuses, parce que ça s'appelle pas autrement. Je parle des notaires, mais il n'y a pas que les notaires, hein. Bon, vous avez pu voir. Mais bon, disons qu'il y a des choses qui sont actées, qui sont sur des actes. Les actes notariés, c'est les assises, quand on fait volontairement défaut. Et donc je m'axe sur ce truc-là, parce que bon, il y en a des tas d'autres, vous avez pu voir. Mais bon, c'est en cours, et même là, vous voyez, c'est chaque fois que je passe une étape suivante, je me dis, il n'y a quand même pas un juge qui va enterrer tout ça. Eh bien si. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on se dit, qui c'est qui va bouger dans tout ça? Voilà, c'est... Alors on passe à l'étape suivante, on continue les dénonciations, de temps en temps, il y en a qui se rebiffent, qui essaient des rétorsions, et puis on fait marche arrière parce qu'on se rend compte que quand même, on est allé un peu trop loin. Voilà, mais pour le moment, c'est que ça. J'ai aucune avancée positive. Ça fait 15 ans que je galère, tout est illégal, mais ça continue. Vous voyez, voilà, le dernier bien qu'on m'a spolié, vous avez vu comment ils ont fait.
Moi.
C'est...
Allô?
Oui, 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 oui. Par moment, je ne vous entends pas très bien. Le dernier bien qu'ils m'ont spolié, c'est l'appartement que mon ex s'était fait attribuer en location au titre de pension alimentaire. Bon, voilà. Pour vous dire, hein, avec des revenus et tout. Moi, j'ai rien, mais ça fait rien, j'ai droit à rien. Bon, c'est normal. Cet appartement, elle, pour éviter que je conteste, quoi que ce soit, donc déjà, l'avocat qui s'est désigné d'office, c'est Balesta, associé à la partie adverse, qu'est-ce qu'il a fait? Il était récusé, prévenu, parce que je l'ai récusé par lettre commandée, par des lettres d'information de partout, etc. Devant la juge, je redis, j'ai récusé cet avocat, j'ai remis des preuves la veille, etc. Elle me dit, c'est moi qui décide. Et M. Balesta me remet ses conclusions devant mon nez. Vous voyez, c'est la défense que j'ai eue. Ensuite, en appel, vous pouvez voir le nombre de courriers que j'ai fait de partout, président, Balesta, bon, avocat que je connais pas mais qui s'impose dans mon affaire. Malgré ça, personne n'enregistre l'appel, volontairement, bien sûr. Parce que faire une audience de plus, ben, ça voulait dire qu'il y avait trois magistrats qui allaient s'impliquer dans une affaire mafieuse. Voilà, et ça, c'est la juge qui a accepté que Balesta lui remet des conclusions sous mon nez à l'audience malgré les récusations, c'est Nathalie Malardel. Évidemment, elle a muté à Caen après, mais bon, ça... En attendant, elle a fait son boulot d'enterrer l'affaire et de me déposséder d'un second bien immobilier. Alors le premier, c'était mes comptes bancaires. Le deuxième, ma maison que j'ai achetée sur mes fonds propres avec des terrains que maintenant, mon ex a acheté le terrain d'à côté. Elle peut construire sur les 1800 m2, 4000 m2 habitables, des immeubles de 6 étages. Et ce terrain, on lui a donné gratuitement, sans compensation. Je l'ai acheté sur mes fonds propres. Vous voyez jusqu'où ça va. Bon, ensuite, donc, ils lui ont donné l'appartement qu'elle avait en location. Évidemment, ils ont fait une espèce de licitation, une vente aux enchères bidon, où évidemment, je me suis manifesté, mais je n'avais pas d'avocat. Donc évidemment, tout ce que je peux dire, ça ne sert à rien. C'est du civil, j'ai pas d'avocat. Voilà le système. Donc madame a renchéri, évidemment, avec tout l'argent qu'elle a détourné des fonds de la communauté, qui était sur des comptes bancaires dont il y a des preuves sur mon site. Eh bien, elle a acheté la moitié de cet appartement, puisqu'elle a avec la communauté, avec les compensations de loyer que je lui dois depuis 15 ans. On est dans l'aberration totale. Et l'étape suivante, c'est de me faire expulser de l'appartement, avec toutes les dettes fictives qu'on m'a collées sur le dos, pour que madame récupère aussi le troisième appartement. Tout ça parce que madame était à l'urbanisme, en mairie. Voilà, avec des réseaux de relations.
D'accord.
Alors vous voyez, avec tout ça, si vous regardez bien, parce que si vous prenez un jeu de conclusion d'un bout à l'autre, par exemple celle de Nîmes, c'est les dernières, en appel. Donc vous verrez, il y a tout dedans, il y a les liens avec les pièces, tout est publié sur mon site. Ça se lit comme un livre ouvert, il suffit de cliquer, on voit tout de suite la pièce. Voilà. Donc en face de ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? S'il n'y a pas d'avancée significative avec tout ce que j'ai fait depuis 15 ans, comment voulez-vous que je croie? On va me dire, on va ouvrir votre dossier. Vous voyez, je ne vais pas me contenter de ça, vous comprenez bien. Voilà. Donc il faudrait que monsieur le procureur soit au courant un peu de ce qui se passe dans cette affaire et qu'il dise carrément ce qu'il en est. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression que il n'y a que certaines personnes qui enterrent cette affaire, parce que c'est les réseaux de relations qui fonctionnent, enfin, etc. Moi, ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à faire le ménage chez eux. Alors, monsieur Coquillat, eh ben, il ferait bien de s'intéresser à cette affaire de près, et il verrait que j'ai parfaitement raison. Et sur ce, il prendrait des décisions pour faire arrêter sur le champ les personnes qui sont impliquées, notamment dans les faux actes notariés, puisque c'est flagrant. Voilà. Et il a toutes les preuves dans le dossier de monsieur Schmitt et sur Internet. Voilà.
D'accord. Et vous pensez que M. Schmitt n'est pas indépendant vis-à-vis de vous?
Ah ben, je vais vous expliquer. Je suis passé devant lui le 11 mai. Bon,
oui,
moi je me suis...
C'est pas fini.
Non, c'est pas, non, fini, non, c'est pas fini. Mais vous voyez, comme il a engagé les questions, M. Schmitt, il ne voulait pas entendre parler du faux. Vous voyez, parce qu'il y a un acte notarié qui a été fait avec des écrits signés. Vous voyez? Donc, ces écrits, quand... c'est volontairement, parce qu'on fait référence à un acte d'avant, et en plus on oublie mon nom, hein, comme si j'étais mort, vous voyez, c'est... mon nom il aurait dû apparaître au moins 4 ou 5 fois dans cet acte, il n'y est pas, c'est mon ex qui est la propriétaire, vous voyez, et tout ça avant les jugements de partage de la communauté, de première instance et d'appel.
D'accord.
Vous voyez, ça veut dire que les notaires, quand ils ont fait cet acte, ils savaient déjà que je ne pourrais pas me défendre. Et que donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, il y a forcé... Et ils savaient aussi qu'ils auraient des complicités de magistrats, puisque les magistrats derrière, ben, visiblement, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on ne m'écoutait pas, ben, ils se sont dit, il n'y a pas de raison, on sait qui c'est, donc ils vont valider. En fait, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, je m'aperçois que les décisions sont toutes anticipées avant les décisions de justice.
D'accord.
Et vous avez les preuves en ligne, encore une fois. Je vous dis, vous pouvez vérifier vous-même, il y a les jugements, il y a les, avec les dates des jugements, il y a les explications. Voilà, c'est juste le prendre le temps de regarder.
Oui, oui, non, mais bien sûr, de regarder, ça ne sera pas un problème, mais c'est comme il y a une instruction qui est en cours de M. Schmitt, c'est lui qui aura la main sur...
Oui, mais sur la... voyez, il y a l'instruction. Je vais vous dire comment déjà je suis arrivé à l'instruction de M. Schmitt. Il y en avait une déjà avant lui, 3 ans avant, de Madame Masse, de mars 2010, vous voyez. Donc Madame Masse, évidemment, ne faisait rien, j'avais beau relancer, etc. À un moment donné, ben, on clôture l'instruction sans avoir rien fait, sans avoir auditionné personne. Donc je fais des procédures moi-même, heureusement c'est du pénal, hein. J'ai fini par apprendre à me démerder, bon un peu avec l'aide de regardant les procédures des autres, bon bref. Donc Madame Masse a rien fait pendant 2 ans et demi. Donc derrière la clôture, je fais appel sur la clôture de l'instruction. Il a, pour que les magistrats réagissent et désignent André Schmitt, il a fallu que je traite le procureur de truand et de mafieux, qui était Pierre-Marie Cuny, qui intervient dans mon affaire depuis 15 ans, et un autre, le président d'audience, qui avait validé un faux. Et donc les deux autres juges, ils ont dû se dire, oulala, Là, nous, on ne veut pas rentrer dans cette merde. Donc là, on m'a fait plaisir, on a désigné un juge, qui est André Schmitt. Vous voyez, ça fait 3 ans, hein. Bon, je passe devant lui le 11 mai, et le 11 mai, c'est lui qui pose les questions, et uniquement ses questions à lui. Il ne veut surtout pas parler du faux. Voilà. Donc quand il me rend en main les questions auxquelles j'ai répondu quand même, j'ai dit, monsieur Schmitt, je ne peux pas signer ce truc-là. Et je suis parti. Parce qu'en signant ce truc-là, ça n'avait rien à voir avec le faux. Donc si monsieur Schmitt me parle de mon divorce, etc., il va présenter ça à sa hiérarchie. Vous voyez, il veut dire, j'ai convoqué ce gars-là pour qu'il parle du faux, il parle de son divorce. Vous voyez, c'est un interrogatoire, un papier, il fallait que je signe un papier qui me dénigrait, en gros. Voilà. Donc j'ai vu encore une fois la supercherie, donc je suis parti et j'ai dit, je suis désolé, je ne signe pas votre truc. Voilà.
Puisqu'il veut... M. Schmitt vous a dit qu'il n'aborderait pas le volet du faux en écriture ou...
Ah ben, M. Schmitt, j'ai dit M. Schmitt, pour avancer dans l'affaire, je vous ai fait une demande d'acte avec les questions à poser au notaire. Évidemment, c'est toutes les questions embarrassantes. Hein. Pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, enfin voilà. Bon, il en a comme ça, il y a 4 notaires à interroger, et on voit s'ils répondent, ils sont tout de suite mis en examen et en tôle. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas prouver. Bon, donc à partir de là, M. Schmitt, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, les questions, vous n'avez qu'à les poser vous-même au notaire.
D'accord.
Voilà, donc j'ai compris la volonté qu'il avait. C'était surtout pas de mettre un grain de sable entre les dans la machine qui avait bien fonctionné jusqu'à présent.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que vous pensez que en restant sur le toit de la cheminée, ça va faire avancer la procédure?
Alors bon, il n'y a pas que ça. Hein. Bon, je vais vous dire, moi je m'occupe aussi d'associations. Et bon,
d'accord.
Vous voyez.
Juste clôturer, si vous permettez, votre volet personnel et après, on parle du collectif. On
passe
pas l'amalgame entre les deux.
Ben, c'est, vous savez, si on en arrive à se défendre comme ça, c'est parce qu'au départ, on a vécu la même chose. Moi, quand on m'a enlevé mon fils avec qui j'étais en permanence, parce que moi, mon fils, je faisais tout avec lui. Hein, moi, c'est, bon, mais c'est facile. À partir du moment où mon ex m'a vidé les comptes bancaires et du jour au lendemain, je ne pouvais plus ni aller au ski, ni faire de planche à voile, ni rien, quand vous retrouvez à zéro et que l'argent coule à flot de l'autre côté, ben c'est la maman qui est devenue le paradis et moi je suis devenu le méchant. Voilà. Donc ça, ce qui se passe aujourd'hui et toutes ces manipulations d'avocats qui se répètent, parce que c'est que ça, vous voyez tous les gens qui sont en bas, c'est que ça, il faut que ça s'arrête. Et il y a des moyens pour que ça s'arrête. Il suffit de faire une loi très simple. En cas de séparation, résidence alternée obligatoire. Vous voyez, c'est simple. Il n'y a pas besoin de passer devant la justice. C'est la loi. Point. Donc tous les gens qui se séparent, ben, ils savent qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un avocat pour à qui on donne le gosse. C'est la loi. La loi, c'est garde alternée, c'est résidence alternée obligatoire en cas de conflit. Bon, après, bien sûr, ça n'empêche pas les ententes amiables comme toujours.
Monsieur.
Voilà.
Sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux attirer votre attention sur deux choses. Vous savez bien qu'une loi ne peut pas être faite comme ça, et encore moins sur la contrainte.
Ben, ça peut pas être fait comme ça, bien sûr, mais nous, on ne sait pas d'aujourd'hui qu'on demande ça. Bon, quand on voit les réticences qu'il y a et comment c'est détourné, c'est-à-dire que, ben, on a, qu'est-ce qu'elle a fait, Benkacem? Elle a sorti une loi, elle a dit, ben c'est bon, en gros titre, hein, les pères ont des droits, voilà. Congé parental. Bon, voilà, ça règle pas grand-chose. Hein. Il y a une famille sur deux qui est séparée, monoparentale, et cela, on n'en parle pas. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas les 6 mois de congé que la plupart des pères ne prennent pas parce qu'ils sont occupés au boulot, etc. Ou parce que, dans certains cas, ben, il se trouve que madame a déjà pas d'activité salariée. Bon... Donc les gens, ils n'ont pas envie de souvent réduire leur salaire en prenant un congé parental. Maintenant, quand on est en couple, c'est pas un problème, parce que le travail, la garde des enfants est partagée. Mais à partir du moment où c'est des familles monoparentales, si c'est un qui a l'enfant, Le gosse, tout le monde le comprend bien, au bout de quelques temps, il ne connaît plus son père. Parce que quand vous avez une fois tous les 15 jours, hein, ou après, comme moi m'avait collé, si vous faites l'équivalent, ça fait 3 jours par mois. Vous voyez votre enfant 3 jours par mois. Et en plus, évidemment, il y a toujours les non-présentations d'enfants qui se rajoutent. Donc 2-3 jours par mois, ben, au final, vous avez plutôt 3 jours une fois tous les 2 mois. Et donc au bout de quelques temps, ben, votre gamin, il n'a plus envie de vous voir. Surtout quand on vous a volontairement ruiné avec des procédures et vidé les comptes bancaires.
Bien sûr.
Voilà le système. Et donc ça, c'est pour tout le monde. C'est le cas quasiment de presque toutes les familles monoparentales. Mais il n'y a pas que des hommes. Je peux vous dire, en association, moi j'ai reçu des femmes, c'était le bonhomme qui avait les relations, et elle galérait depuis, il y en a une qui est venue il y a une quinzaine de jours, ça faisait 15 ans qu'elle voit plus son enfant. Il lui a enlevé à l'âge de 4 mois, et depuis elle continue à payer des pensions alimentaires, sans arriver à avoir son gosse, en ayant passé avocat d'un côté, avocat de l'autre, à un moment donné ils ont même fait un internement psychiatrique, elle dit, comme elle dit, avec tout ce qu'ils m'ont fait bouffer, j'ai mis 3 ans pour m'en relever, voilà. Et quand vous voyez la personne, elle a un boulot, elle a un appartement, elle a un logement, pourquoi elle n'a pas son gosse, elle parle comme vous et moi. C'est bon, c'est pas plus compliqué. On se dit en face, il y a quelqu'un qui a quand même un sacré pouvoir. Voilà. Donc ça, vous comprenez bien que c'est ça sans arrêt. C'est pas des cas exceptionnels comme le mien. Bon, moi je l'ai surmonté puisque je suis là aujourd'hui. Mais. Quand on envoie sans arrêt des gens comme ça, au bout d'un moment, ben on se dit on est comme eux, c'est tout.
Non, mais tout à fait.
Voilà.
Mais je vais vous donner mon opinion qui n'engagera que moi. Hein. Je pense que votre combat sur le front est tout à fait noble et légitime. L'action que vous avez faite, je pense qu'elle a été entendue et...
Ben, le problème, c'est que pour le moment, elle a été entendue dans les médias.
Elle a été...
Bon, c'est déjà pas mal, mais par nos gouvernants, il n'y a rien.
Je vais finir, si vous permettez. Donc, vous avez été entendu à la fois, effectivement, par les médias, mais également par d'autres instances. Par contre, je pense que vous n'obtiendrez rien de concret sur le long terme avec cette action-là.
Je sais pas, parce que, bon, je veux dire, il y en a des tas d'autres qui ont fait des actions. Bon, ben maintenant, on sait ce qu'il en est, nous tous, quoi. On sait que, bon, quand on fait des actions, il faut qu'elles durent. Puisque, bon, il ne se passe rien, il ne s'est rien passé, parce que c'est le cas. Il n'y a quasiment aucune décision qui a été prise pour les familles monoparentales. On est le business des avocats. Et donc, bon, nos institutions, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est le Parlement français, c'est moitié avocat, moi, bon, je simplifie, mais moitié avocat, moitié médecin. Hein. C'est pour ça qu'on a des scandales dans le milieu médical, à répétition, avec médiator, prothèse mammaire, en fait, etc. Ça s'appelle des passe-droits. Bon, mais on a la même chose dans les affaires familiales. Pourquoi? Bon, et donc les avocats, s'ils n'ont pas envie de lâcher le morceau, bah, ils ne le lâcheront pas. Parce que vous savez quand même que 70 à 80% du chiffre d'affaires des avocats, c'est les séparations et les divorces. Vous le savez. Donc, vous comprenez bien que ces gens-là, pour la plupart, ils sont au pouvoir. S'il n'y a pas une prise de conscience populaire importante, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et il faut trouver des moyens. Les moyens, eux tiennent la presse. Bon, certaines presses nous dénigrent rapidement. Hein, quand j'ai vu que, je ne sais plus, on m'a dit... ça doit être Libération qui a dit « Oui, ben ce gars-là, il parle de franc-maçon », voilà, comme si c'était ça l'essentiel de mon site internet.
Mm-hmm.
Bon, vous voyez, on cherche tout de suite à dénigrer. C'est extrême droite, c'est extrême gauche. Moi, j'ai pas... Tous les gens que je reçois, il y a des écolos de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, il y a de tout. Et les gens, ils savent tout. Vous pouvez voir les gens qui sont en bas, vous verrez qu'il n'y a pas de... il n'y a rien à voir avec l'extrême droite. Et tout le monde connaît mon site. Vous voyez? Donc ça, c'est la presse qui est une certaine presse, on va dire, qui est aux ordres et qui a vite démoli les choses. Donc nos gouvernants, s'ils ne veulent pas regarder les dossiers, ben, il faut bien qu'on les force à les regarder, les dossiers. Et il n'y a qu'avec des actions, on va dire, où ils sont obligés de s'y plonger dedans, on va dire, tiens, pourquoi il fait ça, celui-là? C'est quand même, bon, important, il y a peut-être quelque chose derrière. Voilà, donc c'est faux qu'on en arrive là. On n'est pas que quelques pères comme ça, isolés, bon, voilà. Donc les mouvements sont en train de grossir, ça va continuer de grossir, et ça sera de plus en plus, on va dire, déterminé, voilà, si vous préférez les choses. Parce qu'à partir du moment où on fait des actions pour informer, ça ne marche pas, ben, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Alors si vous voulez employer la force, ben, vous employez la force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc le peuple jugera dans quelles conditions vous employez la force pour nous faire descendre. Voilà. Au lieu de faire de la proposition concrète. Comment?
Je disais, on n'a jamais évoqué l'emploi de la force, hein. Il n'a jamais été question de ça.
Non, mais vous savez, quand je vois ce matin qu'on vient négocier avec mon collègue, il y a quand même 11 personnes présentes, ça fait quand même beaucoup pour de la négociation, quoi. Bon.
Non, il n'y a que deux négociateurs. Hein.
Oui, oui, non, mais ils n'étaient pas tout seuls, quoi. Ils n'étaient pas tout seuls.
Non, mais après, vous êtes là, on est en moyenne 4 sur le site, et je ne vous cache pas que d'ici demain, il n'y aura sûrement plus personne, hein.
Oui, bah, ma foi, c'est pour le, pour le moment, pour le moment en bas, pour le moment en bas, tout le monde se demande qu'est-ce que vous allez faire quand, on voit ce matin 11 personnes présentes, bah, les gens ils se disent bon ben bah, ils vont tenter un coup de force, voilà, c'est tout. Hein, bon.
Vous pouvez rassurer tout le monde, il n'y aura pas de coup de force.
Bah, ça rassurerait tout le monde s'il y avait simplement deux ou trois policiers pour la sécurité, et puis c'est tout, ça suffit largement.
Ah mais je pense que d'ici très peu de temps, il n'y aura plus personne, monsieur.
Voilà, bah, s'il n'y a plus personne, tant mieux.
Voilà. Voilà. Il y aura effectivement plus personne sur le site parce que on arrivera également au bout de ce que nous on pourra vous proposer et voilà.
Alors pour le moment, moi je vous dis pour le moment, vous avez un procureur à Grenoble, qui est Coquilla, qui ne connaît pas Grenoble, il n'y a pas longtemps qu'il y est, qui ne connaît pas les affaires passées, parce qu'on a dû lui en cacher pas mal. Et donc, ben, ça serait bien que vous mettiez un rapport avec lui sur ce dossier et qu'il sache un peu ce qu'il en est. Et voilà, et les procureurs sont là pour ça. Bon, alors si vous considérez que je ne suis pas une affaire importante, ben, ma foi, vous avez vu le dossier. Il y a suffisamment. Voilà.
Mais bien sûr. Mais comme je vous ai dit, la procédure, elle est déjà en cours avec M. Schmitt. Le procureur, il peut très bien reconsidérer le dossier. Il a la possibilité légale de le faire.
Il a la possibilité. Il a la possibilité.
Je vous ai dit aussi, le procureur ne viendra pas sur la cheminée pour en discuter avec vous et il n'agira pas sous la contrainte d'une action, d'une manifestation quelconque.
Bah, disons que ça peut l'inciter à aller voir le dossier de près et à se dire dans ce dossier il y a effectivement des irrégularités qui sont passées inaperçues parce que j'étais pas là, en fait je ne sais rien. Moi ce que je veux c'est que ce gars-là qui est là sache qu'il se passe quelque chose à Grenoble, qu'il y a des affaires scandaleuses qui existent et qu'elles ne peuvent pas être enterrées indéfiniment. C'est tout. Moi j'en suis à 15 ans de galère, j'ai rien d'autre à faire que du bénévolat. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'occupe de ça. Bon, vous me direz que j'y ai trouvé un moyen de m'exprimer aussi, parce que je rends service à des tas de gens. Bon, vous savez, dans la société, il n'y a pas que gagner sa vie qui compte, je sais aussi. Hein. Bon, mais je veux dire, moi j'ai aussi mon amour propre. Mon fils, ce qu'on m'a fait, on lui a donné une image de moi que je tiens à ce qu'elle soit réparée, et donc je me battrai jusqu'à ce qu'elle soit réparée.
Mais ça, c'est tout à fait légitime, monsieur.
Voilà.
Maintenant, si votre but, c'était d'attirer l'attention du procureur de la République à la fois sur votre dossier et sur le collectif de manière générale, vous avez réussi votre action.
Oh, ça, j'en sais rien. Je ne suis pas sûr que ces gens-là...
Le procureur, il regarde si ce n'est le Dauphiné libéré. Il était encore dans la presse récemment. Donc, vous avez attiré l'attention et vous avez une réussite dans votre action. Maintenant, pour régler l'ensemble des problèmes dans des personnes de votre collectif ou même votre cas personnel, c'est quelque chose qui, et vous en avez bien conscience, qui va durer dans le temps et qui ne se réglera pas à la fois sous la contrainte et dans les jours qui viennent.
Mais c'est pas de la contrainte. Les trucs comme ça, il y a les dossiers, il y a les gens.
Voilà.
Les gens, il suffit de les rencontrer. Il suffit de faire un rapport. Vous savez, quand ils veulent vous faire rencontrer un psychiatre ou etc., et faire un rapport, s'ils veulent, ça se fait dans la journée. Bon, moi, vous savez, quand on m'a interrogé au poste de police, j'ai passé 150 heures de garde à vue. Hein. À un moment donné, ils se sont dit, merde, on va lui coller une bonne garde à vue. Bon, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une perquisition à 40 km de Grenoble, à Rives, où j'étais en stage pour un poste de consultant. Vous voyez? C'était... de l'intimidation devant l'employeur. Ils pouvaient venir me chercher chez moi, je suis tous les jours chez moi. Ils sont allés me chercher à 40 km chez l'employeur, histoire de bien montrer à tout le monde que j'étais un gros mafieux, quoi. Voilà. Donc bon, évidemment, après ça, c'était un bon moyen de se dire, au moins là, il est sûr qu'il n'aura pas de boulot là derrière. Bon, voilà, voilà le genre de méthode qu'ils ont employé. Derrière, j'ai eu 38 heures de garde à vue, perquisition à mon domicile, bon, qu'ils pouvaient faire sans aller me chercher à Rive, parce que j'y suis tous les soirs et tous les jours. Bon, donc, et derrière, après 38 heures de garde à vue, ils m'ont quand même fait passer devant un psy. Parce qu'ils se sont dit, bon, le psy, après 38 heures, bon, il va, hein, on va dire, débloquer. Bon, moi, c'est pas grave, j'arrive à garder mon calme. Au contraire, vous savez, dans la cellule, j'ai essayé de demander aux autres de garder leur calme, de leur expliquer le fonctionnement de la justice, etc. Bon, et de dormir quand je pouvais, une heure ou deux. Bon, au bout de 38 heures, le gars, il m'a dit, ah ben, vous avez convaincu le psy, vous êtes libre. Voilà. Ils m'ont relâché à 10 heures du soir, avec mes sacs papier de Carrefour, où j'en avais 30 kilos à porter. Voilà, bon, comme j'avais pas de moyen de m'appeler un taxi, je suis rentré à pied. Voilà le genre de rétorsion, il s'est rien passé derrière, hein. C'était outrage à magistrat Fontaine. C'était un de plus, quoi, hein. Bon, ça a été ça sans arrêt. Mais aucune suite. En attendant, ils avaient réussi à impliquer mon ordinateur, qu'ils ont gardé pendant 3 ans, ils me l'ont rendu au bout de 3 ans. Voilà, le but c'était m'emmerder. Voilà. Donc ça, à Grenoble, il y a des policiers qui obéissent à certains ordres, qui savent ce qu'ils font. Et bon, vous savez, comme je dis à beaucoup, je dis on n'est plus en 1940, il y avait la Gestapo, mais aujourd'hui il y en a quelques-uns qui se comportent de la même façon. Voilà, et ça il faut bien que ça change un jour ou l'autre. On n'est plus dans la justice, on n'est plus dans la loi, là on est dans la dérive mafieuse. Et si vous regardez mon dossier, c'est que ça pendant 15 ans.
Et le procureur Coquillat, vous lui faites confiance,
hein? Ben disons que c'est un nouveau. Alors d'accord. Pour l'instant, il ne s'est pas encore prononcé sur le dossier, donc je ne peux pas... Voilà. Par contre, les autres, comme Cuny, c'est lui le premier qui a protégé les flics ripoux qui revendaient les fichiers de la police.
Voilà. Et est-ce que vous l'avez déjà contacté, le procureur?
Ah ben, j'ai essayé, mais le problème, c'est que quand vous écrivez à lui, c'est pas lui qui vous répond. Voilà. C'est ceux qui sont déjà impliqués dans l'affaire, qui interceptent le dossier, et au final, ben, vous avez... C'est en gros ceux que vous dénoncez déjà depuis un bon moment qui vous répondent. Alors bon, le problème là-dedans, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à toucher les têtes et les gens importants.
Vous l'avez transmis par recommandé, votre...
Ah oui, mais moi, c'est pire que recommandé. Je vais au tribunal, je vais dans leur secrétariat ou à proximité, je fais tamponner. Mais bon, là-dedans, c'est les greffières qui font le boulot. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. On le sait. Hein, c'est... Donc dès qu'il y a un dossier qui est tamponné, comme on appelle ça, noir, ben, c'est terminé, il ne va pas plus loin. Bon, ben, on sait que ça fonctionne comme ça. Bon, ben, c'est... Alors, parce qu'on n'arrive pas à voir les personnes en direct, il n'y a pas de réponse en direct. Moi, quand j'en ai un qui me signe, que je finis par trouver la réponse, ben, je sais ce qu'il fait, je sais qui il est, je commence à enquêter sur les affaires passées. Donc maintenant, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'impliquer dans l'affaire. Hein.
D'accord.
Voilà, mais prenez du temps, regardez le site. Moi, pour le moment, ben, on est parti pour durer. Ben, si vous voulez pas intervenir, c'est tant mieux. Et bon, ici, on a de quoi tenir au moins une semaine avec l'alimentaire qu'on a. Et après, ben, on verra, hein. On a de l'eau aussi. Voilà. Donc, il faut que les médias se penchent sur le dossier. Et le scandale de Grenoble, il faut qu'il s'arrête. La justice doit fonctionner correctement. Les gens responsables doivent aller en tôle. Et c'est tout. Il n'y a pas de raison, comme je vous ai dit ce matin, qu'il y ait des Roumains qui piquent des bouteilles d'alcool dans un supermarché et fassent 2 mois de prison ferme. Hein, je le sais parce que j'ai assisté aux audiences au tribunal. Et que derrière, ben, les notaires détournent les biens, volontairement, je dis bien volontairement, en ayant répondu à des ordres. Et que cela, ben, on a beau dénoncer, passe à travers. Voilà. Bon. Alors c'est évidemment, ils n'ont pas fait ça tout seuls. Parce qu'ils ont fait ça parce qu'ils étaient sûrs qu'ils étaient protégés derrière. Voilà.
D'accord. Bon.
Voilà, voilà. C'est tout le trafic mafieux de l'immobilier sur l'agglomération grenobloise qui est là derrière. Eh oui. Bon, moi, bien sûr, vous voyez mon dossier, mais moi, j'en connais des tas d'autres et qui finiront par passer sur Internet. Parce que, bon, les gens, ils espèrent d'année en année. Et puis, bon, comme on dit, au bout de 10 ans, on a fini par comprendre que...
Ça, c'est tout à fait légitime et c'est le droit de chacun. Enfin, je réitère ce que je vous ai dit avant, je pense que vous avez été entendu dans votre action. Maintenant, je pense pas et je suis sûr que perdurer dans cette manière de faire ne vous amènera rien. parce que le procureur ne pourra pas donner une suite favorable à vos demandes, parce que je vous le dis franchement, il ouvrirait la boîte de Pandore à tout. Ça veut dire que une personne mécontente va monter.
Non, après, mais c'est pas tout le monde qui a des dossiers comme le mien. Quand je vois que Mediapart ouvre certaines affaires, bah, on finit par la justice, finit par s'y intéresser. Et c'est pareil, c'est un moyen de pression. Bon, on n'a plus le choix. Non, vous savez, quand le majordome de l'affaire Bettencourt, il est allé remettre des écoutes illégales, il savait ce qu'il risquait. Mais quand vous avez des scandales, ben, vous n'avez plus le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas agir avec la justice quand vous savez que ces gens-là manipulent la justice. Donc, quelques personnes de la justice, je dis bien. Parce que là-dedans, il y a quand même des magistrats qui essaient de faire leur boulot, mais malheureusement, c'est pas, comme par hasard, c'est pas ceux-là qui s'occupent de nos dossiers. Bon, voilà. Donc à partir de là, ben, il faut que là, à partir du moment où il y a des journalistes qui s'intéressent à l'affaire, au bout d'un moment, l'affaire le sort. Donc moi, mon but, c'est d'intéresser un maximum de journalistes sur les affaires des pères, parce que c'est, comme je dis, il n'y a pas de raison que les avocats continuent de vivre de ces affaires-là. Hein, il y a les pères et il y a aussi des mères, malheureusement. Mais bon. Donc, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, le travail des avocats aujourd'hui et de la justice, c'est de s'occuper des délinquants. C'est pas de faire du business avec les affaires familiales. Vous le comprenez bien.
Donc, vous ne pensez pas que vous pouvez être plus utile à...
Allô? 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 Ça a coupé. Il n'y a plus de batterie. Bon, on n'entend plus. Allô?
Oui, on a été coupé.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, vous me disiez, vous ne pensez pas que vous seriez plus utile à quoi?
Oui, en contactant les médias.
Ah ben, mais l'avantage de cette situation, c'est qu'il y a d'autres médias qui doivent m'appeler, qui veulent faire un dossier complet sur l'affaire. Et donc, tant qu'on est dans cette situation, moi et mon collègue, on va attirer les médias. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a une action, il y a deux actions, il y a trois actions. Enfin bon, ça fait un moment qu'on les a enclenchées. Il y en a d'autres en préparation. Et il faut que les médias vont se pencher sur les choses. Et le meilleur moyen de leur expliquer ce qui se passe, c'est de leur montrer notre détermination. Parce que sinon, on est oublié, et puis ils passent à autre chose, et terminé. Donc aujourd'hui, il faut que les médias fassent le lien entre le business qu'il y a avec les affaires familiales et la justice. C'est la détresse des gens, il y en a certains qu'on pousse au suicide. Malheureusement, ça en arrive là, et les avocats n'ont rien à faire. Tant qu'ils gagnent de l'argent, ça continue. Vous voyez, on pousse les gens les uns contre les autres. Avec les gosses, c'est juste un outil, ils s'en foutent. C'est juste un outil, on l'enlève à un, on le donne un coup l'un, un coup l'autre. Bon, moi, dans certains cas, j'ai vu ça. Un parent l'a 5 ans, l'autre après l'a 6 ans. Et voilà, bon, évidemment, ça serait tellement plus simple de mettre une résidence alternée. Bon, non, on l'enlève carrément à l'un, on le repasse à l'autre. Voilà, donc les gens continuent de se battre, on entretient ça pendant 20 ans de l'âge du gamin, quoi. Bon, il y a aussi là-dedans toutes les pensions alimentaires. Allô? Oui, vous êtes toujours là. Il y a aussi là-dedans l'histoire des pensions alimentaires. Vous savez que la CAF aujourd'hui, elle gère déjà les 2/3 des pensions alimentaires pour les impayés. Vous voyez, 2/3. Vous ne croyez pas qu'elle serait capable de gérer les 3/3? Le dernier tiers, c'est les avocats.
D'accord.
Vous voyez? Donc, parce que là, les gens, ils ont des sous, donc c'est ping-pong. C'est-à-dire, le gosse, il a jusqu'à 25 ans, s'il fait des études, ben, les gens passent changement de revenus, hop, recours devant le JAF, hop, on paye avocat. Et allez, pension alimentaire. Alors ça dure 3 ans pour changer le montant de la pension. Et pendant 3 ans, on racle au niveau des avocats. Et ça recommence. Entre-temps, les gens, ils ont perdu leurs revenus. Ben, c'est pas grave, ils continuent à payer des pensions alimentaires. Ils ne peuvent plus payer. Oh, ben, c'est pas grave, c'est saisi de ce qu'il en reste. Enfin, bon. Ouais. Là-dedans, tout le monde se sucre. Alors que vous savez, ça serait simple une pension alimentaire. Hein. Ça serait prévu dans les textes comme la Sécu. La sécu, vous passez pas devant le juge quand vous êtes malade.
Non, non, mais bien sûr.
Voilà, ils auraient un barème simple, simple. Hein, c'est telle situation, tel gosse, tel truc, tel machin, tant de pension alimentaire, prélevé directement sur les revenus, comme la sécu. Et seulement le problème, c'est on va enlever un gros bistec aux avocats encore. Mais les magistrats, s'ils étaient intelligents, et s'ils n'y avaient pas intérêt, parce que malheureusement dans leur famille, il y a beaucoup d'avocats aussi, hein, s'ils comprenaient un petit peu que l'engorgement de la justice, c'est les deux tiers de ces affaires qui n'ont rien à y faire, ben, vous voyez, tout ce qu'on peut plaider, c'est une évidence même. Je veux dire, il y a des solutions. Pourquoi elles ne s'appliquent pas, ces solutions? Parce qu'il y a les freins des avocats. On en revient toujours au même point. C'est une hypocrisie. Et contre une hypocrisie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut montrer à tous les gens que le système est totalement aberrant. Que ce n'est pas un système de justice qui fonctionne. C'est un système de business. Voilà.
Vous avez accès un peu aux médias là-haut?
Ah oui, ben ça c'est, on va dire, tous les jours, tous les deux jours, enfin bon, suivant, ou trois fois par jour, les premiers jours il y en a un peu plus. Bon là il y en a une autre qui doit me rappeler, mais bon, j'attends qu'elle me rappelle. Allô, parlez plus fort, je vous entends pas bien.
Oui, je disais pas dans le sens où vous êtes contacté, mais est-ce que vous avez un petit peu l'écho de comment votre action est relatée dans la presse actuellement?
Oui, parce que bon, au niveau national, bon, vous savez que moi je fais ça depuis un moment en tout cas. Quoi. Bon. Et avec mon site, comme je vous ai dit, j'ai 3 ou 4 000 personnes. Donc il y a des tas de gens qui m'appellent, je suis obligé de leur dire, ben faites court. Ils me disent, ah, on t'a vu dans le truc machin, ah, on t'a vu là, bon, voilà. Donc je sais les échos qu'il y a dans les médias, il y en a même qui m'ont lu les textes. Malheureusement, par moment, je suis obligé de décourter. Voilà, parce qu'il faut que je discute avec tout le monde, y compris avec vous. Je savais que vous m'aviez appelé, vous alliez m'appeler, donc j'ai été obligé de faire court. Voilà, mais donc je sais ce qu'il y a dans les médias, bon, même par SMS, voilà.
Faites-vous relater ce qu'il y a exactement sur le site, par exemple, Indie Media,
Oui, mais sauf que, bon, le problème, c'est les chaînes nationales. Ben, c'est sûr que c'est là que malheureusement, on va dire, 90% de la population s'abreuve, et c'est cela qu'on n'arrive pas à voir. Parce que bon, on a les journaux, ben, déjà, vous savez que comme vous et moi, qu'il y a très peu de gens qui lisent les journaux. Bon, après, il y a ceux qui suivent sur Internet parce qu'ils sont concernés, ben, ceux-là, ils savent déjà. Hein, donc, c'est pas vraiment eux qu'on cherche à toucher. Donc, c'est sûr que nos actions, petit à petit, ça fait, on va dire, des émules, quoi, parce qu'il y en a d'autres derrière qui vont continuer à prendre le relais jusqu'à ce que ça bouge. Bon, bien sûr, à côté de ça, il y en a des tas qui ont renoncé. Hein. Vous voyez, hier, il y a quelqu'un qui est passé en bas, là. Le gars, il m'a dit, tu te rappelles de moi? Oui, je me rappelle de lui. Bon, lui, ça fait 5 ans que je l'ai vu. Hein. Mais il a un fils qui est un peu plus jeune que le mien. Lui, il a complètement renoncé. Bon, c'est sa manière de voir. Voilà, et bon, c'est... Mais il me soutient. Voilà, ça fait déjà plaisir.
Ce que je veux voilà. dire, c'est que prenez garde aussi, parce que vous avez aussi des médias maintenant qui commencent à être un petit peu plus critiques sur votre action. Donc, jugez bien jusqu'où vous voulez aller. Vous avez un message à faire passer. Je pense qu'il est noble, il est légitime, mais à trop aller dans la durée, vous allez peut-être décrédibiliser votre mouvement.
Non. Non, non, vous inquiétez pas pour nous, on sait ce qu'on fait, il faut que les gens, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas encore au courant, et il faut que ça fasse le tour. Voilà.
D'accord. Je vous propose de vous recontacter vers les 18h, si vous êtes disponible, 18h30.
Pour
rediscuter, parce que j'attends aussi moi des directives de la hiérarchie pour...
D'accord.
De la suite qui est
envisagée
également.
Très bien. Ok. Ok, bon, j'essaierai de garder mon téléphone libre vers 18h30. Voilà,
je
si j'ai des appels.
SMS, ok. Je vous envoie un SMS pour vous dire quand j'appelle.
D'accord.
Ça vous laissera quelques temps de battement et je vous rappellerai sinon si.
Ok. Ok, ça marche. Ok.
Merci à tout à l'heure.
Au revoir.